Nous sommes en compagnie de Daniel Daou, passionné d'histoire de l'Outaouais, de la vallée de la Gatineau un petit peu plus particulièrement. Et on se retrouve, Daniel, dans un cadre un petit peu plus normal dans le studio, oui. Parce que la dernière fois qu'on t'avait accueilli, ce qui était aussi la première pour toi, on était au déjeuner de la préfète, il y avait plein de monde et c'était pas mal énervant.
C'était une bonne première fois.
c'était une grosse première fois. Alors, Daniel, cette semaine, je pense que tu veux nous parler de la drave en Outaouais.
La drave en Outaouais, l'histoire de la drave, comment c'est arrivé ici, puis à quoi ça a contribué.
Excellent.
Pour la région. En Outaouais, nous tenons notre industrie forestière de nos ancêtres français. La vocation forestière toucha différents secteurs à différentes époques. Les Philémon Wright et autres se sont inspirés des Français pour le flottage du bois. Notre région de la Haute-Gatineau, meublée de vallons, de collines et avec sa surface la plus boisée du Québec et ses courants d'eau propices au flottage des ressources forestières, contribuera à la colonisation et au développement de tout l'Est du Canada et des États-Unis. Les municipalités de la vallée de la Gatineau tirent leurs histoires de l'exploitation forestière, de la drave et de l'agriculture. Le transport du bois par flottage était nécessaire dans le but de se chauffer, abriter nos animaux de ferme, préserver nos denrées et de construire nos maisons. Beaucoup de familles de la vallée de la Gatineau ont œuvré dans la coupe et le flottage du bois. C'est avec débrouillardise et détermination que nos familles pionnières de la Haute-Gatineau ont développé le pays. Ils ont travaillé d'arrache-pied à élever leur famille en espérant un monde meilleur pour leurs descendants. Au tout début du 19e siècle, Napoléon, empereur français, a mis sur pied un blocus continental dans le but avoué de ruiner l'Angleterre, en l'empêchant de commercer avec le reste de l'Europe. Les ports de la mer du Nord et de la mer Baltique furent alors bloqués aux bateaux anglais. Isolée sur son île, l'Angleterre se retrouva ainsi à court de ressources, dont le bois. C'est à ce moment que l'Empire britannique s'est tourné vers les colonies, plus précisément l'Outaouais, afin de s'approvisionner en pain, en chêne, en ressources essentielles à la construction de navires de guerre. Entre en scène à l'époque M. Philémon Wright, un Américain du Massachusetts, qui avait flairé la bonne affaire en transportant et exportant les précieuses ressources sur des cages flottantes. Des billots étaient écarrés sur place aux différents moulins assis de la baie du lac 31 000, ensuite acheminés par flottage jusqu'à la rivière Gatineau et descendus jusqu'à Hull et Bytown, Ottawa. Ils étaient assemblés en cage descendus sur la rivière Outaouais, sur le fleuve Saint-Laurent jusqu'au port d'embarquement à Québec. Dans la vallée de la Gatineau, la coupe de bois exécutée en hiver au Godendard et au Siot se faisait aux différents affluents au lac avoisinant la rivière Gatineau. Les essences prisées étaient le pin rouge, le pin blanc, le chêne, la pruche et le cèdre. On se servait de la pruche et du cèdre, qui sont des essences qui ne pourrissent pas, pour faire les planchers des tables et des curies. On faisait débouler des montagnes et des rives, les billots de 16 pieds, pour ensuite les acheminer par flottage ou moulin à scie. Comme on le disait, l'histoire du Québec est très étroitement liée à l'industrie forestière. La colonisation provoquant des activités de défrichage du vaste territoire de la province, la Haute-Gatineau, avec des vastes étendues de forêts verdoyantes ainsi que des chapelets de lacs et de rivières, commença à faire miroiter ses richesses naturelles aux yeux des grandes compagnies forestières qui, elles, en entreprirent le défrichage dès le début des années 1800. Le tournant du 20e siècle marqua la fin d'une époque pour l'industrie forestière. Jusqu'à là, l'Outaouais avait été le principal fournisseur de bois de tous les marchés de l'Est de l'Amérique du Nord après avoir alimenté l'Angleterre. L'épuisement des ressources provoquées par une coupe intensive rend difficile l'approvisionnement en bois et carrés. Les plus longs et les plus gros pins blancs et les pins rouges, qu'on trouvait ici en abondance, près des affluents de la rivière Outaouais et Gatineau, deviennent rares. Les besoins en ressources forestières changeront à ce moment-là pour la demande en bois de charpente et en papier pour les journaux. Le réseau routier et ferroviaire reliant nos petits villages aux plus grands centres n'était pas très développé, voire même inexistant. Les défricheurs se virent dans l'obligation d'acheminer le bois coupé en grande partie par voie nautique. On commença à regrouper les bois, les billes de bois ensemble, une action que l'on appelait le baumage. On entoura ensuite ces groupes de billes de gros pins et caries reliés entre eux en chapelet. Ensemble que l'on appelait les bombes ou les estacades, tirées par les remorqueurs à la rivière Gatineau en direction des usines de transformation de Hull et Gatineau. Cette méthode de transport des billes de bois engendra un type d'activité fort populaire en Haute-Gatineau, la drave. Selon les témoignages reçus, la drave aura débuté avec la colonisation du territoire, soit approximativement en 1850. L'information inexistante à ce sujet ne nous permet pas ici de traiter de la drave à cette époque, mais bien celle ayant été réalisée dans la période 1930-1940. De plus, la pratique de la drave était aussi limitée à quelques 3 mois par année, soit de la fonte des neiges fin avril jusqu'au début juillet. Le reste de l'année étant consacré à la coupe de bois dans les chantiers ainsi qu'aux travaux d'agriculture. À l'époque, 3 grandes papetières utilisèrent la rivière Gatineau, la CIP, J. Edward Bold, ainsi que E.B. Eddy, confectionneur d'allumettes et d'outils en bois. Afin de reconnaître chacune des billes de bois, les papetières exigeaient de leur jobber respectif de tailler à la hache un signe distinctif. Ainsi, la compagnie pouvait voir le billot de bois avec un X, 2X ou 2X et un L. Le maître draveur durant les années 40 et son équipe de draveurs étaient composés à l'époque de quelques 10 hommes. Ces derniers travaillaient pour la rondelette somme de 2 à 2,50 $ par jour, logement et nourriture compris. Chèque que les draveurs devaient aller chercher au bureau de la CIP situé à Maniwaki. Selon plusieurs sources interrogées, le maître draveur recevait pour sa part 10 piastres par 1000 pieds de bois acheminés sur la rivière. Pour faire la comparaison, il est intéressant de savoir qu'à la même époque, le consommateur devait débourser 25 sous pour un paquet de cigarettes, 5 sous pour une bouteille de boisson gazeuse et environ 25 $ pour un habit. On travaillait fort et d'arrache-pied pour tenter de se sortir de la misère. Ce qui importait pour les dirigeants des compagnies forestières, c'était l'accès à beaucoup de main-d'œuvre et sa productivité à peu de coûts. Malgré sa carapace de dur à cuire, le draveur de la Haute-Gatineau avait un grand souci des autres, un grand esprit d'équipe et solidarité inébranlable. Toute cette façon de vivre et de faire de gros sacrifices amenait un peu malgré lui à vouloir faire la fête lors des congés, question de se récompenser et vivre un peu d'euphorie, d'exaltation et se changer de la routine. Ce qui ne faisait pas toujours le bonheur des femmes qui étaient à la maison à élever de grosses familles. Elles s'acharnaient à tenir un budget serré et n'étaient pas toujours heureuses de voir arriver leur mari en état d'ébriété, ayant dépensé une partie du revenu familial à la taverne.
C'était même ça dans ce temps-là.
Le draveur avait une volonté de faire, de pousser par un constant sentiment d'insécurité. L'insécurité de l'industrie forestière des années 30-40 a amené les gens à avoir un peu peur de manquer des choses essentielles. Donc, il fallait économiser et prévoir le futur afin de subvenir aux besoins de la famille. D'où vient la mentalité du presque obligé? Au petit point, je n'ai pas le choix. Toute cette précarité a amené les gens de la vallée de la Gatineau à développer leur propre façon de faire pour survivre et s'en sortir. Ils suivaient les normes de tout en ayant une certaine réserve. Ils ne se laissaient pas dicter par les influences extérieures, que ce soit la religion, les lois ou la politique. Lorsqu'ils considéraient qu'une chose était bonne pour eux et leur survie, ils la conservaient. Bien, ils avaient des façons de faire bien à eux. J'irais jusqu'à dire que toute cette précarité les a amenés à avoir une mentalité marginale, presque obligée. Ils avaient assez du curé qui gardait toujours son influence sur le nombre d'enfants à voir dans chaque famille. Ces gens plus scolarisés ne projetaient pas l'image du moins ingénieux. Au contraire, ils développaient leur propre expertise par logique et savoir-faire transmise de génération en génération. Génie du travail de la conception, ils savaient ce qu'ils avaient à faire. Construire un barrage, défaire les embarques, faire les estacades, pour ensuite bâtir une église, des écoles, des fermes, des chalets et encore. Ce qui se démarque de cette société, c'est la force de résilience à développer et à aimer cette si belle région. Beaucoup la quitteront pour l'exode des villes, mais ils y reviendront tôt ou tard. Une nouvelle tendance d'autonomie et de développement économique s'est établie tranquillement, mais sûrement. Les gens, les travailleurs forestiers de la Haute-Gatineau n'ont pas dit leur dernier mot. Ils n'attendront pas nécessairement les investissements extérieurs pour se développer. Ils vont plutôt se prendre la main et regrouper leurs forces afin de développer le grand potentiel de cette région.
C'était des gens qui travaillaient très, très, très fort. Daniel Daou, un grand merci de ta présence ce matin parmi nous.
Merci beaucoup. Bonne journée.